France Inter.
Et bonjour à tous. Le mouvement MeToo a pris de l'ampleur dans le cinéma français avec les dénonciations de Judith Godrèche. Mais ces derniers jours, le débat s'est déplacé sur les conditions dans lesquelles se déroulent certains castings. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour.
Bonjour Géraldine Allot.
Bonjour.
Vous avez recueilli des témoignages qui mettent en cause la manière dont se serait comporté le réalisateur Philippe Lioret. Certaines actrices disent avoir vécu une forme d'abus de pouvoir lorsqu'elles passaient des essais. Nous les entendrons. Et puis nous recevrons Antoine Rouget de Mediapart. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, on reviendra sur cette affaire complètement folle de sextape qui aurait été commanditée par le maire de Saint-Étienne pour nuire à son premier adjoint. Les investigations devraient être bouclées la semaine prochaine.
Secret d'info, Jacques Monin sur France Inter.
Philippe Lioret, il sort de deux films qui ont fait plus d'un million d'entrées. Il a révélé Mélanie Laurent qui a eu un César. C'était Je vais bien, ne t'en fais pas, qui est quand même un énorme succès populaire. Il tournait avec Vincent Lindon. Il faisait partie du top 3, top 4, top 5 des réalisateurs français avec qui on aimait travailler, quoi.
Voilà pour les propos d'une responsable de casting qui nous rappelle en quoi Philippe Lioret est un cinéaste emblématique, connu notamment pour Welcome, et on l'a entendu, Je vais bien, ne t'en fais pas. Sauf que je le disais, il a été mis en cause cette semaine par 10 actrices qui se sont exprimées à visage découvert. Alors précisons d'abord les choses, Géraldine Allot, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce que ces femmes évoquent, ce sont des gestes déplacés, des baisers forcés qui auraient eu lieu pendant ou en marge de casting.
Oui, nous sommes à l'été 2010. Philippe Lioret entame les auditions pour son nouveau film « Toutes nos envies », inspiré du roman d'Emmanuel Carrère « D'autres vies que la mienne ». Le scénario met en scène Claire, une mère de famille, qui apprend qu'elle a un cancer au cerveau incurable, et une autre femme, Céline, qui s'enfonce dans la spirale du surendettement. Claire est magistrate de profession et elle va tout faire pour aider Céline à s'en sortir avec l'appui d'un autre juge.
Et le casting de ce film est alors un des castings les plus courus de Paris.
Oui, on l'entendait il y a un instant. À cette époque, Philippe Lioret est à la fois salué par la critique et par le public. Ses films, engagés et humanistes, font plus d'un million d'entrées. Et si le rôle masculin principal de Toutes nos envies est d'emblée attribué à Vincent Lindon, de nombreuses actrices passent des essais pour les rôles féminins. Virginie Efira, Judith Godrèche, Emma Decaune, Laetitia Casta, Marie Gillin. Marie Gillin qui sera finalement retenue pour jouer Claire.
Et plusieurs de ces comédiennes donc vous disent avoir mal vécu ce casting.
Oui, c'est le cas d'Élodie Frink, l'un des rôles principaux de la série télé Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Élodie Frink avait déjà tourné avec Philippe Lioret dans Mademoiselle en 2001. Elle le retrouve donc à l'été 2010 pour ses essais.
J'apprends mon texte, j'y vais et là, il décide qu'il me donnera la réplique, lui. Et il s'avère que c'était une scène d'attirance mutuelle. Alors j'étais un peu timide, intimidée et il a commencé à être très insistant. Il mettait sa bouche dans mon cou, j'étais très mal à l'aise. Je me dégageais et puis il me disait « mais tu veux le faire ou tu veux pas le faire ?» Je me sentais une petite souris dans une boîte, au fond de la boîte, ne sachant pas ce qu'on avait le droit de faire, de pas faire. C'est moi qui passe les essais, c'est pas lui. Lui, il ne m'aidera pas forcément en mettant une langue dans un cou, en ayant un souffle court. Et puis, c'était de plus en plus désagréable. Et on le fait une fois, et on le fait deux fois. Et il veut toucher plus, et que ce soit plus vrai, et plus vrai, et plus vrai. Et tout d'un coup, j'ai décidé que ça suffisait. Je suis partie. Ça reste un très mauvais souvenir, malheureusement. Voilà.
Oui, ce que vous dit Élodie Frink, Géraldine, elle n'est pas la seule à le dire.
Non, de nombreuses femmes qui ne se connaissent pas, on le précise, nous ont raconté avoir ressenti ce même malaise lors de ce casting. Nous avons pu visionner des images de ces essais et l'on voit effectivement le réalisateur donner la réplique, enlacer les comédiennes, poser ses lèvres dans leur cou et s'y attarder. L'actrice Amandine Dewham, qui a finalement été retenue pour jouer le rôle de Céline, dit avoir été très gênée.
Bizarrement, c'est Philippe qui m'a donné la réplique. Et normalement, ça se passe pas comme ça. Normalement, c'est l'assistant de casting, la directrice de casting ou un comédien qu'on emploie pour ça. Et là, c'était Philippe. Je ne me dis pas « c'est bizarre », mais à partir du moment où il m'a pris dans ses bras, où j'ai senti ses mains et ses doigts dans mon cou, sur mes hanches, son souffle dans mon cou, je crois me souvenir, mon corps s'est pétrifié. Je me rappelle m'être dit « mais je fais quoi avec ça ?»
Et donc, visiblement, le comportement du réalisateur leur pose problème.
Oui, d'autant plus que lors de ce même casting qui a eu lieu à Paris, Philippe Luret s'est isolé dans une pièce à part avec certaines actrices et c'était particulièrement déstabilisant, raconte la comédienne Émilie Deville.
On s'est retrouvés tous les deux dans une pièce fermée. On a commencé à travailler des scènes différentes, et puis une autre, et puis là, il commençait à me dire « t'es exceptionnelle, t'es merveilleuse ». Et là, il tape du poing sur la table et il me dit « mais tu vois, là, je vois tout Paris, il n'y en a pas une qui me fait ce que tu me fais. Faisons cette scène. » Et là, il fait l'enfant de 6 ans, se mettant à genoux, il attrape mes hanches, il colle son visage sur mon sexe en disant « maman ». Il me demande de caresser ses cheveux, de consoler l'enfant, le soi-disant enfant que j'ai entre les jambes. Lui qui, environ à l'époque, avait 53 ans ou quelque chose comme ça. Et je m'exécute parce que en fait, je veux le rôle, je veux juste jouer dans son film. Et ensuite, il y a une autre scène où en fait, il parcourt les pages et là, il vient jouer donc mon mari. Et il me serre fort, il respire dans ma nuque. Une fois encore, c'est étrange, je me retrouve là entre quatre murs, dans les bras du réalisateur, gêné par la situation.
Gênée par la situation. Et Marie Gillin, qui elle a eu le rôle principal, Géraldine, dit aussi avoir été gênée.
Oui, Marie Gillin a souhaité apporter son soutien à toutes ces actrices qui témoignent. Elle nous a fait parvenir un texte que vous pouvez lire sur le site de France Inter. Elle y écrit que si elle n'a pas vécu de situation problématique avec Philippe Luret au cours du tournage et lors de la promotion du film, et qu'elle lui est très reconnaissante de lui avoir donné le rôle de Claire, elle se souvient malgré tout d'une sensation de malaise lors des essais. L'attitude charnelle de Philippe m'a gênée, dit-elle. Je ne lui ai pas dit. Sans doute parce qu'il avait tous les pouvoirs à ce moment-là, en particulier celui de me donner ou pas ce rôle dont je rêvais.
Mais Philippe Luret, lorsqu'il fait ses castings, la plupart du temps, il n'est pas seul. Les autres personnes qui étaient sur place, elles n'ont pas perçu ce malaise dont vous nous parlez ?
Alors nous avons pu nous entretenir avec l'assistante casting de l'époque. Elle était présente dans les locaux de la production pendant les 2 mois qu'ont duré les essais. Nous l'appellerons Julia. Elle a accepté de nous parler au micro avec une voix modifiée. Elle aussi a été choquée par le comportement du réalisateur.
Il se prive pas de toucher la naissance des seins, même d'embrasser la naissance des seins, de se mettre dans le cou de la comédienne, de lui embrasser, enfin d'être à 2 mm de sa bouche, de lui susurrer des choses à l'oreille. C'est vraiment très gênant, quoi. Puis en plus, c'est des moments qui durent, qui sont complètement hors propos par rapport à la scène. Et puis, il reste très très longtemps. Donc, non seulement c'est pas la scène, mais en plus, il voit rien de la comédienne, quoi. Et je me souviens des comédiennes tellement mal à l'aise d'être dans les bras de Philippe et de se faire tripoter comme ça. On les voit essayer d'utiliser ça pour le mettre dans leur personnage, mais c'est... Ouais, non, c'était super malaisant, quoi.
Bon, mais alors face à tout ça, et là je me tourne vers vous, Élodie Guéguin, que répond Philippe Luret ?
Alors nous l'avons rencontré début avril pour lui parler de tous ses témoignages. Il se dit abasourdi et il s'excuse si son comportement a pu heurter les comédiennes. Mais il a souhaité que ce soit son avocate, Solange Doumic, qui s'exprime au micro.
Philippe Luret s'est toujours impliqué très personnellement dans les castings. Les réalisateurs le font, plus ou moins. Lui, c'est vraiment son truc. Il cherche à obtenir le meilleur des comédiens et des comédiennes qui passent des essais devant lui pour pouvoir voir si ça va coller ou pas, si ça va fonctionner dans le film, si tout se passera comme au mieux de ce qu'il faut. Aujourd'hui, si des actrices se révèlent avoir été heurtées, Philippe Luret est vraiment profondément désolé de ça. Il s'en est évidemment pas du tout rendu compte. Il s'en serait rendu compte, il l'aurait pas fait. Il est désolé de ça et il s'excuse. auprès des actrices si elles ont pu mal vivre ces moments.
Ouais, voilà donc pour sa réponse. Maintenant, Élodie, vous avez identifié d'autres moments qui, visiblement, ont aussi posé problème lors de ce casting.
Oui, Philippe Lioret a fait répéter une autre scène aux actrices, la scène dite du parfum, lors de laquelle le personnage de Claire parfume le décolleté de Céline. Dans le scénario que nous avons lu et dans le film que nous avons revu, c'est une scène très chaste, mais l'assistante casting, Julia, nous a raconté que Philippe Lioret insistait pour voir la poitrine des actrices.
Il voulait absolument qu'on voit le sein de la comédienne et pas seulement le sein, il tenait à ce qu'on voit l'aréole de la comédienne. Et donc j'avais pour ordre de sortir le sein, de tirer sur le soutien-gorge et de sortir le sein pour mettre du parfum. Et je me souviens que ça me mettait très mal à l'aise. Et je me souviens que je m'arrangeais pour attraper la comédienne au moment où elle arrive en casting, dans les escaliers, pour lui dire « Je te préviens, Philippe va te demander de sortir les seins, t'as pas été prévenu, t'es pas obligé de le faire, et t'inquiète pas, si tu veux pas le faire, je m'arrangerai pour... on trouvera une parade, quoi. »
Sauf que cette assistante n'était pas toujours présente et que certaines comédiennes ont dû gérer ça lorsqu'elles étaient seules face au réalisateur. Une actrice célèbre qui a préféré garder l'anonymat nous a dit que Philippe Lioret l'avait fait venir un samedi pour une lecture de scénario. Elle raconte, je la cite, « J'étais seule avec lui, il m'a dit « Je veux voir tes seins, si je dois les filmer, je dois les voir. J'ai trouvé ça malsain, je suis partie. »
Et là-dessus, que répond Philippe Lioret ?
Eh bien, quand nous l'avons rencontré, il nous a dit n'avoir jamais de demander ça. Son avocate nous a précisé quelques jours plus tard qu'il n'avait pas le souvenir d'avoir forcé qui que ce soit à faire quelque chose de déplacé.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors retour au casting du film « Toutes nos envies » de Philippe Lioret, Élodie Guéguin, parce que vous avez découvert autre chose. Apparemment, il avait promis le premier rôle de son film à plusieurs comédiennes en même temps.
Oui, et parmi elles, Hélène Cesaret, que les téléspectateurs connaissent peut-être pour son rôle dans cette série de France 2, « Le crime lui va si bien ».
En fait, il me maintenait dans un espoir, dans une attente en fait pendant 2 mois. Il m'envoyait messages, mails en me disant de toute façon c'est toi qui auras le rôle ou j'ai pas de couilles si je te donne pas le rôle, tu es un cadeau de la vie, t'es merveilleuse, donc c'était très flatteur parce que tout à coup on se dit bon bah il vous a repéré dans une pub Herta, c'est que quelque part il émane de vous quelque chose qu'il recherche par rapport à ce rôle-là.
Et Hélène Cesaret se souvient qu'elle a dû passer 10 essais, c'est beaucoup. En général, pour un premier rôle, c'est 3 essais maximum. Philippe Lioret l'a même appelée pour une lecture un week-end. Elle nous raconte cet épisode.
Je viens un samedi, tous les bureaux sont fermés, je suis un petit peu étonnée. On est tous les deux. Bon, c'est pas normal en fait. Ce qui est en train de se passer n'est pas normal. C'est gênant. J'accepte de faire ces essais quand même. Et puis, à l'issue de ces essais... qui me mettent mal à l'aise, mais bon, voilà, je passe au-delà de ça. On retourne à nos véhicules respectifs, et là, il essaie de me voler un baiser. Je détourne la tête, et là, à ce moment-là, je me dis, aïe. Il amène une situation qui est malaisante, qui est gênante, qui est un abus de quelque part de pouvoir, où il se permet, parce que je suis en attente de ce rôle, de me voler un baiser.
Ouais, et voler un baiser, Géraldine Allot, c'est aussi ce que dénonce une autre comédienne.
Oui, nous l'appellerons Christine. Elle a une carrière bien remplie au cinéma et au théâtre. Elle aussi a passé des essais pour Toutes nos envies en 2010, mais pour un plus petit rôle. Christine a été rappelée pour un deuxième essai, un callback, comme on dit dans le cinéma. Et un samedi soir, elle reçoit un appel de Philippe Lioret. À sa demande, nous avons modifié sa voix.
Il était à peu près 20h, 20h15, je dirais ça. Et là, il me demande ce que je fais et si je peux venir manger avec lui au restaurant. Comme c'était important et qu'il venait de me dire qu'il avait du mal à me départager avec une autre personne et qu'il fallait que je le convainc que j'étais vraiment le rôle, et j'y suis allée. Et j'étais très étonnée qu'on ne parle absolument pas du film. Et puis on part. Là, moi, j'étais en voiture, donc il m'accompagne jusqu'à ma voiture. Et là, il m'embrasse sur la bouche.
Je cherchais pas à lui plaire, j'avais pas d'objectif comme ça, et du coup ça m'a dégoûté, donc je l'ai repoussé en lui disant « Ah non, alors certainement pas, ce sera sans moi ».
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Eh bien, Christine est rentrée chez elle, sidérée.
Je me souviens être rentrée à la maison et être totalement défaite. Qu'il ait réussi à faire un truc pareil alors que moi, je ne me plaçais pas comme objet érotique. Je le savais puisque j'étais follement amoureuse d'un autre homme. Je savais que je ne dégageais absolument pas quelque chose d'érotique. Donc en fait, j'étais bousculée de me dire, il a forcé les choses alors qu'il n'y avait aucun signe de ma part. Je pensais aux autres aussi en me disant, bah dis donc, si moi, il m'agresse alors que je suis pas une fille fragile, alors ça doit être terrible. En général, je n'ai jamais plus une nouvelle de lui et j'avais peur de le croiser.
Et vous n'avez pas eu le rôle ?
Et je n'ai pas eu le rôle. C'est très net, j'étais utilisée à cette fin-là, de pouvoir me consommer. Voilà comment moi je l'ai vécu, il n'y avait rien d'artistique là-dedans. Bien sûr qu'il prenait le pouvoir.
Le pouvoir, et c'est ce qui ressort d'ailleurs souvent de vos entretiens, Géraldine. Beaucoup de femmes ont eu le sentiment de s'être trouvées démunies face à un réalisateur tout puissant, en fait, qui pouvait décider de leur sort, de leur avenir. Mais ce que vous avez aussi constaté, c'est que des épisodes de ce type, en fait, il y en a eu bien avant qu'ils ne soient célèbres.
Oui, nous avons recueilli le témoignage d'une autre actrice que nous appellerons Nathalie et qui a vécu une expérience similaire à celle de Christine. Cela remonte aux années 90. Philippe Luret entame le casting de son prochain film et il pense à Nathalie pour le rôle principal. C'est ce qu'elle nous raconte avec une voix modifiée pour préserver son anonymat.
Philippe Luret a demandé à mon agent de me rencontrer et il a demandé à ce qu'on déjeune ensemble. Donc on a déjeuné ensemble pour parler du rôle. Donc le déjeuner s'est bien passé, on a parlé du rôle. Au moment de partir, donc on était sur le trottoir et de manière assez brutale, il m'a attrapé par les épaules et m'a embrassé. Coulument, vraiment un vrai baiser. Et donc moi je suis resté assez pétrifié, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Tout de suite après, voyant ma réaction qui était un peu plutôt de la sidération, il est parti, je suis parti, et il m'a appelé dans la journée pour s'excuser platement. Et la semaine d'après, je pense, enfin quelques jours après, donc il m'a appelé pour me dire que je n'aurais pas le rôle, mais que... En compensation, je pouvais avoir un petit rôle, et il y avait un tout petit rôle de 2 jours de tournage. Voilà. Peut-être que si j'avais été plus gentille, j'aurais eu le rôle. Voilà, ça serait passé différemment. En tout cas, j'ai pas montré du tout d'ouverture de ma part.
Alors, sur le moment, Nathalie n'a pas vécu cet épisode comme une agression, mais 3 décennies plus tard, dans la foulée du mouvement MeToo, elle voit les choses différemment.
À ce moment-là, non, je mettais pas des mots comme ça dessus. Aujourd'hui, oui, par tout ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe, où je me dis, mais finalement, c'était une agression sexuelle. Alors, intérieurement, je la vis pas comme telle, hein, parce que c'était il y a longtemps. Mais le retour de mes filles, qui trouvent ça inadmissible, et je me dis, oui, il y a aucune raison qu'on se fasse traiter de la sorte, quoi. D'où il a le droit de m'embrasser sans que j'ai donné mon consentement, de me traiter comme ça de manière brutale. Je considère que c'est une agression sexuelle.
Ouais, agression sexuelle. Et là-dessus, que répond Philippe Luret ?
Il répond qu'il n'a jamais forcé une femme à l'embrasser. Son avocate, Solange Doumic, évoque plutôt une forme de maladresse.
Philippe Luret a pu chercher à séduire maladroitement, peut-être trop vivement. Mais en tout cas, il s'est arrêté au moment où le refus lui a été manifesté de manière claire. Il a pu croire à quelque chose... s'aveugler lui-même dans quelque chose, se faire croire à quelque chose, mais il n'a jamais forcé un consentement qu'on lui refusait. Si une femme ne voulait pas, elle ne voulait pas. Alors évidemment, il y a toujours un rapport de pouvoir entre les réalisateurs et les comédiens, notamment au moment du casting. Mais c'est pas parce qu'il y a rapport de pouvoir qu'il y a abus de pouvoir.
Inter, secret d'info.
Bien, alors retour à vous, Élodie Gaguin. pourquoi les comédiennes qu'on vient d'entendre n'ont pas dénoncé les faits qu'on a décrits à l'époque? Pourquoi elles ont autant attendu?
Alors, déjà, si beaucoup d'actrices ont ressenti un grand malaise sur le moment, elles avaient du mal à qualifier les faits et elles n'ont pas forcément osé en parler. Certaines avaient peur aussi, si elles témoignaient, de moins tourner parce qu'elles auraient été perçues comme trop prudes ou trop rigides. Et puis, il y a eu l'affaire Weinstein en 2017, le début de la libération de la parole et enfin le vrai MeToo du cinéma français sous l'impulsion de Judith Godrèche en début d'année. Écoutez ce qu'en dit Christine, dont on le rappelle, la voix a été modifiée.
Je veux témoigner aussi pour que les filles plus jeunes ou les hommes plus jeunes aient des antennes, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Surtout les femmes, elles font un travail, c'est un travail. Ça demande suffisamment d'abnégation, d'efforts à plein d'endroits. Et il y a suffisamment de diktats auxquels on obéit pendant toute une vie pour qu'au moins on soit tranquille dans notre travail et qu'on ne soit pas obligé de regarder derrière nous s'il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde les fesses.
Et la comédienne Hélène Cesaret estime elle aussi qu'il faut que les choses changent lors des castings, un moment où les actrices se sentent vulnérables.
Moi, c'est le message que je veux donner aux jeunes comédiennes, c'est-à-dire ne passez pas par là. N'acceptez pas des choses qui vous paraissent déplacées, malsaines, perverses. Vous n'avez pas à coucher, vous n'avez pas à vous avilir pour obtenir un rôle. Certainement pas. Et si vous ne tournez pas avec ce type qui est malsain, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Vous tournerez avec quelqu'un qui le sera plus quelques temps après si vous avez à réussir dans ce métier.
Voilà qui est dit, mais ces comportements dont on vient de parler, Élodie, ils sont isolés ou répandus?
Alors, ils ne sont pas isolés, Jacques. Nous avons interrogé Sophie Lenné-Diodovitch, qui est directrice de casting et membre du collectif 50-50. Elle dit avoir assisté, encore assez récemment, à un moment dérangeant lors d'une audition où le réalisateur aurait demandé à des jeunes femmes de se dénuder alors que ce n'était pas prévu. Mais cette directrice de casting pense tout de même que les choses s'améliorent globalement.
Je pense que c'est quand même une certaine génération, quand même, souvent. Hein, c'est qu'il y avait une très grosse tolérance à ce genre de comportement et qui est quand même de moins en moins le cas. Et puis en plus, les réalisateurs et les réalisatrices d'aujourd'hui ne peuvent pas se cacher sur « mais moi, je suis d'une autre génération, c'est une autre époque ». Ce que pouvaient dire peut-être des Benoît Jacquot et consorts.
Et puis, il faut ajouter que des associations militent pour que ça bouge.
Oui, et c'est le cas d'une association qui lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma, l'ADA. Elle fait des préconisations pour éviter les abus lors des castings, parce que si sur les plateaux de tournage, il y a eu des progrès ces dernières années, avec la présence de référents harcèlement et parfois de coordinateurs d'intimité, eh bien, les essais restent vraiment un angle mort du mouvement MeToo. Il est temps de définir des règles, estime la comédienne Clémentine Poidatz, qui est membre de l'ADA.
Notre métier, il faut qu'on ramène toujours ça à la loi du travail. Un réalisateur ne donne pas la réplique à des actrices. Un réalisateur ne donne pas rendez-vous à des actrices à 20h, ne donne pas rendez-vous dans des hôtels. Nous, c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, de mettre un cadre très clair au moment des castings. Comme ils le font, mais parce qu'ils ont des syndicats aussi qui sont très puissants aux États-Unis et en Angleterre. Aux États-Unis et en Angleterre, même bien avant MeToo, quand on voulait voir votre corps, moi ça m'était arrivé, et on m'avait filé une combinaison comme des trucs de danse en fait. Mais jamais on m'a demandé de me mettre nue, jamais on m'a tiré sur mon t-shirt pour voir mes seins. Enfin, on vient faire un travail, on vient passer un entretien d'embauche. Et voilà, ouais, qu'il y a un cadre clair au casting.
Et une autre association, l'ARDA, qui regroupe, elle, les directeurs de casting, a établi une charte déontologique. Elle dit que lors d'un casting, un comédien ou une comédienne n'est pas obligé de se déshabiller, sauf si il ou elle a donné son accord au préalable et qu'une tierce personne est présente.
Et ce sera le mot de la fin. Merci Élodie Guéguin, merci Géraldine Allot pour cette enquête. Alors je précise, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le sujet, que votre enquête, avec la lettre d'ailleurs intégrale de Marie Gillin, on peut la lire sur franceinter.fr. Maintenant, restez surtout avec nous. Vous avez déjà vu des histoires de compromat au cinéma. Eh bien, vous verrez dans une deuxième partie que ce qui se passe à Saint-Étienne dépasse quasiment la fiction.
on the knuckles from the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens. How you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. Just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a. Does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets. Are you so young and hard and mean, so cold and mean?
Night of the Hunter, la nuit du chasseur, nouvel extrait du dernier album des Libertines emmené par Pete Doherty. Faut d'ailleurs les savourer leurs albums puisque le précédent datait de 2015 et celui-là, dit-on, pourrait être le dernier.
France Inter, Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Antione Rouget de Mediapart. Bonjour.
Bonjour.
La semaine prochaine, les juges d'instruction lyonnais qui sont en charge de l'affaire de la sextape de Saint-Étienne vont organiser d'ultimes confrontations avant, a priori, la clôture de l'enquête. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur cette affaire qui est un peu folle, qui a tout d'un compromat digne d'un polar russe. Alors d'abord, Antione Rouget, un mot des faits eux-mêmes. Le maire, les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, est donc soupçonné d'avoir fait filmer à son insu Gilles Arty, qui est un de ses adjoints, avec un escort boy pour le neutraliser en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ?
Bon, déjà, on ne peut pas comprendre cette affaire si on ne se place pas dans le microcosme politique local. Donc, Gaël Perdriau est élu à la mairie de Saint-Étienne depuis 2014 et il remporte les élections municipales au terme d'une alliance contre nature avec une figure locale centriste qui est Gilles Arty, quelqu'un qui a une grande notoriété dans la ville de Saint-Étienne et qui est un rival en réalité de Gaël Perdriau. Et c'est dans ce contexte politique là que Gilles Arty va être filmé à son insu avec un escort boy donc qui a été rémunéré pour l'occasion. Et il faut savoir que Gilles Arty est père de famille, catholique pratiquant. Il a été mobilisé notamment au moment de la manif pour tous. Et donc ensuite, le film qui a été réalisé dans cette chambre d'hôtel va être utilisé politiquement contre
comme
lui.
Comme moyen de pression, et pendant des années d'ailleurs.
Pour le dissuader de candidater à certaines élections, pour s'assurer qu'il reste bien à sa place pendant toutes ces années et qu'ils ne viennent pas concurrencer ou marcher sur les plates-bandes de Gaël Perdriau.
Alors parlons de l'enquête maintenant, il y a plusieurs personnages principaux, on peut peut-être les prendre dans l'ordre d'ailleurs. Parlons d'abord de Jérôme Samy Kefi, qui est l'adjoint à l'éducation. C'est lui qui est soupçonné d'avoir organisé ce tournage.
Alors, dans la chambre d'hôtel en 2015, quand Gilles Artigue est filmé à son insu, il y a bien une personne qui organise concrètement les choses, qui reçoit l'escorte, qui convainc Gilles Artigue de le rejoindre dans la chambre, dans
la chambre de la caméra.
D'hôtel, qui va prendre une caméra, une GoPro, placée dans le coin de la chambre, qui va mettre à l'aise l'ensemble des protagonistes, et puis qui va appuyer sur Rec au moment de, d'enregistrer les choses. Et donc cette personne, c'est effectivement monsieur Samy Kefi Jérôme, et donc c'est ce protagoniste-là qui va matériellement organiser les choses pour obtenir cette vidéo compromettante.
Et il va changer plusieurs fois de version.
Oui, moi au début de l'enquête, donc en août 2022, quand je m'apprête à faire les premières révélations dans Mediapart, j'échange avec Samy Kefi Jérôme. Et il est dans une stratégie de dénégation absolue de ce qui s'est passé. Il va même aller jusqu'à contester l'existence même de cette vidéo, alors que moi j'ai récupéré le matériel. Et surtout sur les images, je vois bien qu'il est présent dans la chambre d'hôtel ce jour-là. Et donc Samy Kefi Jérôme, une fois que je vais faire ces révélations, va démissionné de la mairie de Saint-Étienne. Et puis, très récemment, devant les juges d'instruction, il va finir par reconnaître à la fois son implication dans cette affaire. Il va présenter ses excuses auprès de Gilles Artigue et surtout expliquer que l'un des commanditaires de cette vidéo n'est autre que le maire Gaël Perriot.
Oui, et lui explique que c'est le directeur de cabinet du maire, en fait, qui a commandité. Après, il suppose que derrière, il y a forcément le maire. Mais il donne le nom du directeur de cabinet, non ?
Oui, il parle très concrètement du directeur de cabinet de Gaël Perriot, qui est son bras droit. Pierre Gauthiery, c'est vraiment l'éminence grise de Gaël Perriot. Il fonctionne comme un binôme. Et Samy Kefi Jérôme va expliquer devant les juges d'instruction que Pierre Gauthiery lui a demandé de réaliser cette vidéo en échange d'un soutien politique de Gaël Perriot, et selon son interprétation, Gaël Perriot était nécessairement au courant de la demande formulée et engageante de la part de Pierre Gauthiery.
Alors soutien politique du maire peut-être, mais il y a aussi de l'argent dans cette histoire, 40 000 euros.
Il est évident que parmi les motivations des protagonistes de cette affaire, il y avait des enjeux de pouvoir, d'influence, mais également d'argent. Deux subventions municipales ont été versées à des structures qui n'avaient que très peu d'activité au sein de la mairie de Saint-Étienne, qui ont en quelque sorte été créées pour la cause et qui ont reçu 20 000 euros chacune. Et cet argent a été immédiatement reversé, quasiment en intégralité, à un personnage central, important, qui s'appelle Gilles Rossary Langlais, qui est un communicant professionnel et qui était le compagnon de Samy Kefi Jérôme, l'homme qui a filmé Gilles Artigue dans la chambre d'hôtel. Et Gilles Rossary Langlais, depuis le début de l'enquête judiciaire, assume son rôle dans l'affaire et a indiqué que le deal finalement qui avait été passé avec la mairie de Saint-Étienne, c'était de réaliser cette vidéo et de piéger Gilles Artigue en échange donc d'un soutien politique, mais également en échange d'argent, sonnant et trébuchant, donc qui a été versé par le truchement de ces deux associations, donc avec aujourd'hui des mises en examen pour détournement de fonds publics.
Alors on le disait, l'enquête touche à sa fin, mais l'étau se resserre autour du maire, puisque le directeur de cabinet du maire, Pierre Gauthiery, dont on parlait il y a un instant, l'a lâché en décembre dernier.
Il y a eu une bascule extrêmement intéressante et importante dans cette affaire. C'est que, en août 2022, au début des révélations, la quasi-totalité des protagonistes de l'affaire nie l'existence même d'un complot et d'une vidéo. Et ce qui s'est passé au gré des investigations et des découvertes de la justice et de la police, hein, des perquisitions qui ont été réalisées et de la saisie d'un certain nombre de documents, c'est que un certain nombre d'acteurs dans l'entourage le plus proche de Gaël Perriot vont progressivement changer de version et valider la thèse selon laquelle donc un complot a bien été envisagé, a bien été organisé depuis l'hôtel de ville, et Gaël Perriot en est le principal ordonnateur. Et en décembre 2023, le directeur de cabinet Pierre Gauthiery va expliquer qu'il ne veut plus servir de fusible pour Gaël Perriot et va le désigner comme le donneur d'ordre de tout ce chantage et de la vidéo.
Gaël Perriot qui, lui, continue de nier.
Oui, il est le dernier à expliquer aujourd'hui qu'il n'a rien à voir avec cette histoire, mais il se retrouve dans une situation extrêmement délicate, dans le sens où on se retrouve dans un dossier aujourd'hui où de nombreux acteurs du chantage et la principale victime, Gilles Artigue, qui a produit et fourni auprès de l'autorité judiciaire des enregistrements dans lesquels on entend la voix de Gaël Perriot, qui le menace de diffuser la vidéo, donc ce qui prouve que Gaël Perriot, à minima, connaissance de l'existence de cette vidéo, et bien l'ensemble de ces acteurs-là dans le dossier judiciaire aujourd'hui mettent en cause directement Gaël Perriot, qui est totalement isolé.
Et puis ce que l'enquête a révélé, c'est que la même équipe avait prévu d'organiser une autre opération du même type, mais cette fois-ci pour neutraliser, entre guillemets, l'ancien maire de Saint-Étienne, Michel Thiolière.
Oui, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir que finalement le même mode opératoire.
Là, il s'agissait d'une prostituée de 16 ans qu'on voulait lui mettre dans les bras.
Oui, donc c'est au cours d'une réunion à l'été 2015 dans le bureau du directeur de cabinet Pierre Gauthiéry. On entend dans un enregistrement Pierre Gauthiéry avec Gilles Rossary-Langlais, le communicant dont nous parlions tout à l'heure, qui envisage le fait de piéger l'ancien maire de droite, Michel Thiolière, qui était également sénateur, avec une prostituée mineure, de préférence originaire des pays de l'Est. Le directeur de cabinet et le communicant évoquent à l'occasion de cette réunion la possibilité ensuite d'exfiltrer cette prostituée mineure pour être sûr qu'elle ne parle jamais.
Complètement fou.
Et donc cet enregistrement a été remis à la justice en octobre 2023, a donné lieu du coup à l'ouverture d'un nouveau front judiciaire et surtout permet de voir que la manière dont a été décidé le chantage contre Gilles Artigue n'est pas en fait un phénomène isolé au sein de la mairie de Saint-Étienne, mais dessine plutôt un fonctionnement totalement...
C'est une manière de concevoir la vie politique.
Systémique, en fait, ouais. Fait de pression, de chantage, et sur fond de pièges sexuels qui sont organisés contre des adversaires politiques, même dans le propre camp du maire, en réalité.
Ouais, c'est une affaire à peine croyable. Merci, Antoine Rouget. Alors, pour ceux qui voudraient tout savoir de cette affaire, aller plus loin, je rappelle qu'on peut consulter vos articles, et ils sont très nombreux depuis le début, sur Mediapart, donc site payant, je le précise. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Julien Thévenot et Clément Vuillet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.